Donc, on a dit ce soir, Rav Dalet Tevet, le 24 Tevet, il ouvre le Rabbi Shneur Zalman. On va faire un cours aujourd'hui hors série, commentaire de Rabbi Shneur Zalman sur la paracha de cette semaine, la paracha Vaera. Commentaire du livre Torah Or. Ok ? Alors, on va lire quelques lignes ensemble et on va commenter. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un regard nouveau et inédit sur la paracha. Ok ? Vaera. Comment commence la paracha de cette semaine ? Vaera, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai. Le pasouk nous dit, Dieu parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, Bekel Shakai, avec le nom de Kel Shakai, comme on a expliqué ce matin, ou Shmi Hashem, lo nodati lahem, mais mon nom Hashem, je ne me suis pas dévoilé à eux. Ok. Comment vous traduisez Vaera? Alors Vaera en hébreu, c'est un piège.
Voir. Il a vu.
Justement, le mot Vaera, il y a le mot apparaître, voir. Seulement, dans Vaera, on peut l'expliquer de deux façons. Soit au passé, soit au futur. En français, ça nous donne soit « je suis apparu au patriarche », c'est-à-dire que là, Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, que « moi, je te parle à toi, mais je suis apparu dans le passé, au patriarche, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov », ou bien « Vaera », ça peut vouloir dire aussi « j'apparaîtrai ». D'accord? J'apparaîtrai à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, j'apparaîtrai à I. D'accord? Alors attendez, on va expliquer. Non, ce que ça veut dire. Donc, Iné, Vaera, Yeshbo, Bet Pirushim. Le terme Vaera a deux explications. Aleph, le premier. Essayez d'utiliser dans les mots si vous pouvez, sinon vous écoutez à l'oral, mais c'est mieux d'utiliser dans les mots. Je suis à la colonne de droite, ici, le deuxième.
Aleph, Lachon.
Aleph, le premier, Lachon Avar. Au passé. C'est-à-dire quoi, Vaera? Ça veut dire que c'est au passé. Chez Nidgalé, la vote. Que dans le passé, Dieu dit à Moshe, dans le passé, je suis apparu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mais Véabet, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. La deuxième explication, Lachon Atid.
Atid futur.
C'est au futur. Chez où Lachon Ové, qui est au présent. On appelle ça en français un présent perpétuel.
Ouais, exact.
C'est-à-dire quelque chose qui vaera, c'est j'apparais, j'apparaîtrai sans fin. Chez Tamid, Yesh Bechinazo, comment on va développer, qu'en fait, Dieu n'est pas en train seulement de raconter une histoire à Moshe. Tu sais, je suis apparu au patriarche. C'est un présent perpétuel. Il lui dit, toujours j'apparaîtrai au patriarche. Mais pourtant, les patriarches, c'est terminé. Oui. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça remet 3300 ans. Eh ben, il dit non. Chez Tamid, Yesh Prinazo, Bechol Adam, car tout le temps, il y a ce niveau en tout homme. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Comment, chez chacun de nous, il y a Avraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov.
Mais il pouvait utiliser un autre.
Et deux secondes, je vais terminer. Deux secondes. Donc, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, le présent perpétuel, donc le futur, expliquer comment, chez chacun de nous, il y a un peu d'Avraham, un peu de Yitzhak, un peu de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit Vaera. Vaera, c'est pas seulement je suis apparu dans le passé. Vaera, c'est dans le sens j'apparais. J'apparaîtrai présent perpétuel. Ça veut dire que Dieu dit, c'est pas seulement que je suis apparu au patriarche dans le passé. Je continue toujours à me dévoiler au patriarche. Comment? Ils sont plus là, ils sont partis de ce monde. Non. Parce que, en vérité, chez chacun de nous, il y a un peu d'Avraham, un peu d'Israël, un peu de Yaakov. Donc Dieu, il continue à apparaître au Avraham qui est en nous, au Yitzhak qui est en nous, au Yaakov qui est en nous. Alors évidemment, en théorie, c'est joli ce qu'on dit, mais il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Moi, je suis pas Avraham, je suis pas Yitzhak, je suis pas Yaakov. Quel rapport?
Je sais même pas si j'ai ce petit
parcelle. Exactement. Je sais même pas si j'ai cette petite parcelle. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, il y a un mois de ça. Parce que si tu me dis que c'est du passé. C'est une histoire. Je raconte une histoire. Il y avait un grand mec qui s'appelait Avraham, un autre grand qui s'appelait Yitzhak, un autre grand qui s'appelait Yaakov. Oh, c'est du passé. Mais là, le chidouche, quand tu dis non, c'est pas du passé. C'est du présent. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est du présent. Et c'est ça ce que Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu. Vaera, j'apparais dans le présent à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov. Ah, ils sont pas là. Eh ben, il est en toi. Comment expliquer ça? Alors, vous avez une question, je crois, en fait.
Oui, je disais tout à l'heure que au lieu de à ce moment-là de faire toute une paracha Vaera, il y avait un autre terme qu'on pouvait utiliser. Au lieu de dire Vaera, il est apparu.
C'est ce que je dis, c'est que le mot Vaera en hébreu, c'est un terme qui veut dire deux choses. C'est pas une erreur de traduction ce qu'on a fait.
Non, j'ai pas dit que c'était une erreur. J'ai dit il aurait pu utiliser un autre terme que Vaera.
Non, mais c'est, justement, c'est pas un, si un mot a deux sens, ça veut dire que la Torah veut que tu comprennes les deux sens. C'est pas un piège. Il y a un sens général du texte dans lequel Dieu il parle à Moshe, il lui parle d'un passé. Mais après, quand tu rentres dans les profondeurs du texte, tu comprends que le texte, des fois, a plusieurs sens.
Mais dans toute la Torah...
Quand vous lisez, par exemple, un texte de Molière, les Avdil, d'accord, vous lisez un texte de je ne sais qui, vous comprenez qu'il y a plusieurs sens. Tu as un sens littéral que peut comprendre un enfant en sixième, d'accord. Après, quand tu le relis, etc. Moi, je ne lis pas ce genre de texte, mais quand tu le relis, tu comprends qu'il y a des nuances, il y a des messages, etc.
Moi, je lis ce genre de texte.
Et que des fois une ligne que tu croyais avoir compris, elle peut vous dire plein de choses. C'est ça la force d'un message. Alors, à plus forte raison pour la Torah, les Avdil, que dans la Torah aussi, sans fin. Alors, donc, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui,
il est apparu.
M. Benita, c'est pas le thème. Le thème aujourd'hui, maintenant, on va essayer de comprendre comment on retrouve Abraham, Yitzhak et Yaakov chez chacun de nous. C'est ça la question. Après, je parle dans un cours de grammaire. Ce que je vous dis, c'est qu'en hébreu, Vaera veut dire deux choses, ça c'est clair. Vaera, ça veut dire le passé, et ça veut dire le présent perpétuel. Donc, ma question, c'est le passé, je comprends. Tu me racontes, j'ai un grand-mère qui s'appelle Abraham, qui s'appelle Yitzhak et Yaakov, je comprends. Mais le présent, comment je retrouve Abraham en moi? Alors en fait, la clé de la réponse, je vais nous expliquer. Il dit qui en Corin Avot et la Lishlosha. Est-ce que vous avez remarqué combien de patriarches nous avons?
Trois.
Qui sont les trois patriarches?
Abraham, Isaac et Yaakov.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir l'appellation patriarche? Pourquoi Moshe c'est pas un patriarche? Pourquoi Aaron c'est pas un patriarche? Pourquoi David c'est pas un patriarche? Pourquoi Abraham, Isaac et Yaakov sont des patriarches? D'abord, ça veut dire quoi patriarche? Patriarche, ça veut dire père. Combien de pères on a? Un père. Alors comment tu me sors trois pères?
Là, c'est une trilogie.
Oh non, on va s'arrêter
là. C'est pas les trois premiers, parce que non. Le premier, on l'a pas cité, Adam.
Là, c'est chez les chrétiens.
Non, Trinité.
C'est pas patriarche. Voilà. C'est celui qui a découvert
le truc. Mais justement, eux, ils jouent sur ça, sur cette Trinité.
C'est pas le bonsoir. Pour parler de ça.
Celui qui a découvert Dieu, peut-être.
Non, mais sérieusement.
Parce que moi, j'ai vu une trilogie dans trois.
Bah, il a parlé avec lui, hein.
C'est quoi le patriarche?
C'est que Hachem, il s'est dévoilé à eux.
Ah, mais pourquoi Hachem s'est pas dévoilé?
Il y a Aaron,
s'est pas dévoilé. Il y a David, s'est pas dévoilé. Il y a Amram, s'est pas dévoilé. Il y a Adam, s'est pas dévoilé.
Ah oui.
Qu'est-ce qui les rend des patriarches?
L'appellation là-dedans. Alors qu'il y avait même Adam Rachel qui était le premier.
Ah, parce que peut-être c'est Abraham, le début, c'est de là où a commencé le peuple hébreu.
Alors dans ce cas-là, il me faut un patriarche.
Abraham.
Oui, mais
Abraham.
C'est Yaakov en vérité, puisqu'il a, il a.
Pourquoi tu me prends les deux? Pourquoi trois? Comment tu peux avoir trois?
Bah parce que Abraham, il n'était pas, il faisait que Chesed.
Non, mais je comprends, ça, c'est comme moi j'ai compris
ça.
Mais chaque tzadik,
il a sa
qualité, il a son point fort, mais ça n'explique pas pourquoi tu l'appelles patriarche.
Ah.
Donc, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On va essayer d'expliquer pourquoi chez chacun de nous il y a un peu d'Abraham, un peu d'Yitzhak, un peu de Yaakov, au point que je les appelle mes pères. Alors en français, pour faire plus beau, on appelle ça patriarche. Mais patriarche, ça veut dire père. Hein, en hébreu, on les appelle les avot. Av en hébreu, c'est quoi?
Père.
C'est un père. Donc j'ai trois pères.
Et avot, c'est en anglais aussi.
Hein?
Avot, père en anglais.
Avot?
Ouais. Non, ça veut pas dire avot. Avot. Ça ne veut pas dire le père en anglais, non?
Je ne crois pas, non?
Non.
Un père, c'est dal.
Fatal, t'as dit. Bon, peu importe.
Non,
okay.
Non, c'est le frère.
Bah, il va expliquer.
Non, c'est les laboratoires à bottes.
Bah, Inyan, on va expliquer. J'ai pris Nata Avot, Yerusha, Livne, Macharehem, Becholdor, Vador. Le niveau des patriarches est hérité à leurs enfants, donc nous. Après eux, dans chaque génération, les cholchad à chacun, les foum shiuradile selon sa mesure. On va expliquer tout de suite. Hein. C'est très profond, c'est un texte très profond. On va prendre du temps pour le développer. La chen omri, mais c'est pour ça qu'on dit Eloke avoté nous. Donc notre Dieu est le Dieu de nos pères. Eloke Avraham, Dieu d'Avraham, Dieu d'Itsrak, Dieu de Yaakov. On s'arrête là. Aval, mais, shiar prinot umalat tzadikim. Les autres niveaux et les autres qualités des tzadikim. Kegon Ashvatim, comme par exemple les tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Shehem, Vadaï, Prinat, Orot et Lionim. C'est sûr que Reuven, Shimon et Lévi correspondent à des niveaux de grande lumière. Pourtant, on ne dit pas Eloke Reuven, Eloke Shimon, Eloke Lévi. Pourquoi? Comment, exactement pourquoi? Il dit, Yesh lecha Adam, parce que tu as des gens, Shehem, Boklal, Prinat, Madrigatelo, qui n'a pas en lui ces niveaux-là. Machen, qu'en prinata avot, alors que le niveau des patriarches, tarik leot bechol adam, il doit se trouver chez chaque homme, shem, shoresh, ou makor kol en shemot Israël, car ils sont l'origine et la source de toutes les âmes d'Israël. De toutes les âmes d'Israël. Oui. On va expliquer ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple avec les couleurs. Combien de couleurs de base on a? Est-ce que vous savez combien de couleurs de base? Non, non, non.
Le noir, le blanc.
Combien de couleurs de base il y a dans le monde?
Les couleurs.
Quatre, je crois.
Quatre couleurs. D'accord.
Le bleu, le noir, le rouge.
Tu as le bleu,
le vert,
le rouge,
le vert, d'accord, le jaune,
le blanc et le noir.
Non, le blanc, c'est pas une couleur. Ah. Tu as le rouge, tu as le vert, le rouge, le bleu.
Et le jaune.
Non, attends une seconde.
Ah, parce qu'après,
tu as cyan, magenta.
C'est quoi ça?
Jaune, d'accord.
Sienne.
D'accord, sienne. Donc, tu as le, comme une sorte de, comme le rouge, on va appeler rouge, rouge, magenta, bleu. D'accord. Jaune et noir. Quatre couleurs.
Les couleurs qu'on a dans la
machine. Avec ces quatre couleurs.
Couleurs de base. Quoi.
Avec quatre couleurs de base. Avec ces quatre couleurs.
Ah, quatre couleurs.
Tu peux faire n'importe quelle couleur.
Rouge, vert, bleu, jaune.
Ah, voilà, c'est ça. Rouge, jaune, t'as dit?
D'accord.
Rouge, jaune,
bleu et noir.
Rouge, bleu, jaune et noir.
C'est les couleurs qu'on a dans l'imprimante. Ouais, c'est
les ça. Couleurs, rouge, exactement, bleu, les couleurs que tu as dans l'imprimante. Et en fait, avec ces quatre couleurs, tu peux créer des tu peux créer des nuances de couleurs à
comment
l'infini.
Comment s'appelle à propos la bande qui relie l'ordinateur à l'imprimante pour qu'elle lise là? Plate. Et c'est une bande plate qui dit à l'ordinateur, ça c'est ça l'imprimante et l'imprimante
un câble, un câble.
Oui, c'est un câble, mais je sais pas, il a un nom comme martingale ou un nom comme ça. Bah, j'arrive pas à trouver le, il y a un terme, cette bande qui relie l'ordinateur
à un câble. Aujourd'hui c'est un wifi aujourd'hui, mais bon,
qui permet de
Péritel, avant c'était Péritel, non, peu importe.
Appeler quelqu'un chez Canon.
Je reprends. Donc la question qu'on se pose ici, c'est, je reprends l'exemple des couleurs. Combien de couleurs de base il y a?
Quatre.
Quatre couleurs. Et avec ces quatre couleurs, tu peux créer des couleurs à l'infini.
Merci.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une couleur et une autre? C'est le dosage. C'est-à-dire qu'il y a une couleur dans laquelle on met un peu plus de rouge, un ou l'autre un peu plus de vert, etc. Je ne sais pas si vous touchez un peu à l'ordinateur, mais même en vérité, vous pouvez toucher avec ça, avec la palette. Ça, vous prenez la palette des quatre couleurs de base, vous pouvez créer n'importe quelle couleur au monde. Avec ces quatre couleurs, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites dans les imprimantes, il y a toujours quatre cartouches. Pourquoi? Parce qu'avec ces quatre cartouches, tu peux créer toutes les couleurs que tu veux. D'accord? Toutes les couleurs que tu veux. Tu vas chez l'imprimeur aussi, il a quatre passages. Parce qu'avec quatre passages de quatre couleurs différentes, tu peux créer toutes les couleurs que tu veux. Alors, voilà, je vais en arriver. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre une couleur et une autre? C'est le dosage. Tout le monde a les quatre couleurs. Mais il y en a qui ont un peu plus. Il y en a qui a un peu plus d'une couleur, un autre qui a un peu plus d'une autre couleur. En vérité, je vous dis quatre couleurs, mais c'est même pas quatre couleurs. En vérité, c'est trois couleurs. Parce qu'avec trois couleurs, avec le bleu, le rouge et le noir, on peut créer même le noir. Avec le bleu, le rouge et le jaune. On peut créer même le noir. Avec le dosage. Mais bon, on préfère avoir du vrai noir. Je suis pas venu faire un cours colorimétrie. D'accord? C'est pas notre cours aujourd'hui. Ce que je vais expliquer, c'est la chose suivante, c'est qu'on voit qu'il y a une question de dosage. Ce qui fait la différence entre une couleur et une autre couleur, c'est le dosage. De la même façon. Quand on va expliquer, chacun de nous, on a un peu d'Abraham, un peu d'Itsrak, un peu d'Yaakov. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous? C'est que peut-être il y en a un qui a un peu plus d'Abraham, un peu plus de bonté. Il y en a un autre qui a un peu plus de rigueur.
Ah, c'est ça le dosage.
Et un autre qui a un peu plus, peut-être, d'harmonie. Mais ça, c'est tout le monde a les trois. Il n'y a pas un juif qui n'a pas au moins un peu des trois. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le dosage. C'est ce qui fait qu'on n'a pas le même style, qu'on n'est pas les mêmes, etc. Par contre, si je parle par exemple de Reuven, on a fait un cours, ça fait quelques semaines, sur Reuven. Reuven, on a dit, c'est celui qui veut faire tchouva à tout le monde. Peut-être qu'il y en a un parmi nous ici qui n'a pas en lui de Reuven. Peut-être. Yosef, c'est la royauté. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui a en lui la nature de la royauté. Peut-être qu'il y en a qui n'a pas.
Mais il s'agit pas de cela.
Justement, c'est pour ça que Moshe, Reuven, Shimon, Lévi, Aaron, David, est-ce qu'ils ont l'appellation patriarche, Michel?
Non.
Non. Pourquoi ils ont pas l'appellation patriarche?
Alors.
Parce que certains juifs, alors ça dépend. Peut-être que vous, monsieur Benita, vous avez un peu de Reuven, un peu de Lévi, un peu de Yosef, un peu de ci, un peu de ça. Mais il y a des tribus que vous n'avez pas. Donc on peut pas les appeler patriarches. Parce que, un enfant est forcément relié à son père. Dès que tu dis patriarche, c'est que forcément tu descends de lui. Mais si c'est pas forcément que je descends de lui, c'est plus un patriarche. C'est un inspirateur. C'est pas un patriarche. Un patriarche, un père, c'est que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Même si tu es fâché avec lui, tu descends de lui. Alors, on te dit, les seuls qui ont l'appellation patriarche, c'est qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Parce que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, t'as en toi un peu d'Abraham, un peu d'Yitzhak, un peu de Yaakov. Il faut qu'on développe, parce que c'est pas simple du 12. Hein. Mais des gens commencent à comprendre.
Parce que peut-être que les autres, ils avaient beaucoup de Yitzhak,
Non, les autres ont de très grandes qualités. Mais leurs qualités n'ont pas forcément été héritées par chaque juif. Bonsoir. Les qualités que les autres ont n'ont pas forcément été héritées par chaque juif. C'est tout, c'est simple. Alors que les qualités d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov sont partagées par tous les juifs. C'est pour ça que quand on commence la prière le matin, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure aussi? Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Abraham. Donc notre Dieu est le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov. Et on s'arrête là. Pourquoi? Parce que si tu as Abraham, Yitzhak et Yaakov, t'as tout. Après, tu peux rajouter, c'est les options. Il y en a un qui a un peu de Moshe, l'autre qui a un peu, enfin Moshe on verra après, mais un qui a un peu de Reuven, qui a un peu de Shimon, mais tout le monde a en lui Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc avec ça, on comprend pourquoi le passage qui dit « Va'era el avot ». Dieu, il dit « Je suis apparu au passé au patriarche et j'apparais dans un présent perpétuel au patriarche ». Pourquoi il dit « j'apparais » ? Parce que c'est vrai que les patriarches, les tzadikim, eux, ne sont plus de ce monde. Mais ils sont toujours dans ce monde par nous. Ça veut dire qu'on a toujours en nous Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que Dieu, il dit « Je ne parle pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov au passé. Je parle au présent. C'est plus qu'un héritage. » C'est que leur vie continue en nous.
C'est-à-dire à travers nous.
Ah, voilà.
Nous avons des gènes.
Nous avons en nous du Abraham. Chacun de nous a du Abraham, du Yitzhak et du Yaakov. Alors, il y en a un qui est plus bon que l'autre. Alors lui, il a plus d'Abraham. Mais même qu'une personne qui n'est pas forcément quelqu'un de bon par nature, il a un peu de Chesed. C'est pas possible. Il a un peu d'Abraham. On va avancer. Ou les Havin, Inyan Gilouizé. Je suis à la ligne qui commence par Neshamot. 10e ligne environ. Ou les Havin, Inyan Gilouizé, chez Bechol Lorvador. Pour comprendre comment ce phénomène se dévoile dans chaque génération. Et prinat ou madrigat avot shibechol adam Israël, comment chez chaque juif on retrouve le niveau des patriarches. Comment chez chacun de nous il y a du Avraham, du Yitzhak et du Yaakov. Pour expliquer ça, on va ouvrir une parenthèse, une très jolie parenthèse, mais qui a priori n'a rien à voir pour l'instant. Hine agalut nimshal leibo. Pour expliquer comment on a un peu d'Abraham, un peu d'Israël, un peu de Yaakov, on va d'abord parler de la galoute, de l'exil. Pour l'instant, il n'y a aucun rapport, mais vous allez voir qu'il y a un très bon rapport. La galoute, l'exil, dans les prophètes, dans la Gemara, est comparé Ibour, à l'enfantement. La galoute, l'exil, est comparé à l'enfantement.
C'est une douleur.
Ou Geoulat Yemei Israël, donc l'enfantement, la grossesse. Ou Geoulat Yemei Mashiach, et la Geoula de Mashiach, chez Yemimé Ravi Abenoui, puisse-t-il arriver rapidement de nos jours, amen, Nimshal le Leïda, est comparé à une naissance. D'ailleurs, c'est pour ça quand une femme, par exemple, est enceinte, elle est au 9e mois, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Une bonne délivrance. Pourquoi on parle de délivrance?
Parce que c'est les douleurs de l'enfantement.
Parce que, qu'un rapport avec la délivrance.
Se libérer de...
Parce qu'en vérité, c'est parce que Mashiach est comparé à l'enfantement.
Comparé à l'enfantement, c'est ça.
La galoute est comparée à la gestation. 9 mois de gestation, donc c'est compliqué, il y a des contractions, ça boule, etc. Et la Géoula est comparée à l'enfantement, lorsque le bébé sort. Que Moshe Ketouv, comme il est écrit, qui chala gamial dat Tzion et banéa, comme il est écrit, dans une prophétie messianique, que Tzion a donné naissance à ses enfants. De quoi on parle? De la Géoula. Ou que chez Israël, netunim betzara chas veshalom, lorsque les juifs passent par des malheurs, Dieu préserve. Si, il est écrit, comment le prophète écrit ça? Qui va ou banim ad mashber. Les enfants sont arrivés jusqu'à mashber. Mashber, je sais pas comment on dit en français, c'est la table où on accouche. Le lit. Mashber, c'est le lit d'accouchement. Vekoar ein et les dames, mais ils n'ont pas la force d'accoucher. En d'autres termes, c'est quoi? C'est les contractions. C'est quand le bébé, il a envie de sortir. On va à la table d'accouchement, mais il n'y a pas la force d'accoucher. Le bébé, il sort pas. Donc, quand les bénis Israël passent par des souffrances dans la galoute, ça veut dire quoi? C'est quoi les souffrances? Les souffrances, c'est lorsque le bébé, il a envie de sortir, lorsque la gaoula a envie de venir, mais elle n'arrive pas à venir. Vous me suivez?
Oui.
Ça veut dire que, même si c'est une gestation, la gestation n'est pas forcément douloureuse. D'accord? Comment tu expliques la douleur? Il t'explique. Comment ça marche la douleur? La douleur, c'est parce que le bébé, il a envie de sortir, mais il n'y a pas la force pour accoucher. Vechen, pareil. Chevle Yemot HaMashiach, les souffrances de les souffrances pré-messianiques, Nikraim Beshem Chevle Leida, sont appelées les douleurs de l'enfantement. Que Moshe Katouf, comme il est écrit dans la prophétie, qui Chevle Leida Yavo Ulach, car les douleurs d'enfantement te viendront. Vechen aussi. Maintenant, on va venir à l'Égypte, parce qu'on va parler d'Égypte maintenant. Bigeulat Mitzrayim, concernant la libération de l'Égypte. Imshil binevuat Yechezkel, Ézéchiel, dans sa prophétie, a comparé Kol Ha'inyan, tout ce qui s'est passé en Égypte, il a comparé ça à quoi? Les valades Beyom Aleda. Il a comparé ce qui se passe en Égypte à un bébé le jour de l'accouchement. Donc, Moshe Katouf, comme il est écrit, ou Molatoir Beyom Uledetotar. Donc, le prophète Ézéchiel compare la sortie d'Égypte à la naissance du peuple juif. L'okarat, ça rêve, etc. Maintenant, ou le havin, machalum, litsa, la tsarik, la vid, maoumaou, yenaïbour. On a dit, bon, on a compris ça, on a bien compris que la geoula est comparée à l'enfantement, et la galou était comparée à la grossesse. Mais, d'accord, quel rapport, finalement? J'avais plein de choses dans la vie qui peuvent faire souffrir. On peut comparer à la maladie, on peut comparer à la guérison, on peut comparer. Quel rapport avec la grossesse? Donc en fait, ce qu'il va faire maintenant, c'est magnifique, il va analyser, et c'est extraordinaire comment on savait ça à l'époque, à son époque, moi, il va amener la Gemara, le Zohar, etc., pour expliquer comment est le bébé dans le ventre de la mer. Qu'est-ce qui se passe avec le bébé dans le ventre de la mer? Et on va voir que point par point, ce qui se passe avec le bébé dans le ventre de la mer correspond à ce qu'on vit en galoute. À ce que nous vivons en galoute.
D'accord.
Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de comprendre comment, dans cette galoute, justement, ce qui nous fait tenir, c'est quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, on n'y est pas encore.
L'espoir.
On va développer, parce qu'il nous faut les trois. Les trois réunis. Après, il y a deux âges, mais il nous faut les trois. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, c'est pourquoi la galoute est comparée à la gestation. Et pourquoi la galoute est comparée à l'enfant. Quel rapport avec la naissance d'un bébé? J'ai compris le concept, que c'est douloureux, ça sort pas, après ça sort. Ça, j'ai compris, c'est simpliste, ça.
C'est
on va aller plus loin, on va aller plus loin. Quel rapport avec le bébé? Alors, regardez.
Pour ajouter avec Paul.
Mais étant donné qu'on a un peu de Abraham, d'Israël et de Yaakov, donc normalement on a un petit peu de parcelles divines en nous,
oui.
Donc on ne devrait pas passer par ce galoute.
Justement, donc il faut comprendre pourquoi on passe par la galoute. À quoi sert le galoute? Pourquoi le bébé avant de naître doit passer par cette phase de gestation? Pourquoi la maman doit passer par cette phase de souffrance?
Enfin, il a dit Dieu dès le départ, hein. Tu enfanteras dans la douleur.
Ça, c'est pour la maman.
Oui.
Et pour le bébé.
Après.
Pourquoi le bébé, il sort pas directement d'un coup? Pourquoi le bébé, il doit passer par la gestation? À quoi sert la gestation?
À former le bébé.
J'ai compris. Parce que
le bébé est formé déjà.
Mais pourquoi Dieu, il fait pas que le bébé se forme d'un coup? Dieu veut tout faire. C'est rien. Parce que la naissance elle-même est un miracle. Pourquoi Dieu fait? Ouais, on va expliquer. Oui.
Il disait que les Égyptiens, ils avaient surtout des sphinx qui étaient fixés à l'entrée du pays. Et du mot sphinx, on voit le sphincter.
Là, c'est ce qu'on met dans les plafonds, là, pour le
non, c'est le sprinkler, ça, ouais.
C'est le côté étroit de la chose pour ne pas sortir.
Ah, d'accord.
C'est pour ça que le pays était vraiment petit, tu pouvais rentrer, pas sortir.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'ils y fixaient des sphinx, du mot sphincter.
D'accord, Razak. Non, mais c'est joli, mais ce qu'on veut comprendre, c'est pour...
Donc, la difficulté de... Tu peux rentrer, ne pas sortir.
Mais quel rapport avec la grossesse? Prends encore avec la grossesse.
Je te parle le problème de ne pas sortir.
Non, mais le bébé, alors, quand il sort, tu ne peux pas le rentrer. Hein. Une fois qu'il est sorti, tu ne peux pas le rentrer.
Donc, si vous voulez, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre, on va essayer de...
À moins de passer par la césarienne.
Parce que j'aimerais terminer le sujet. Bon, on a le temps encore, mais j'aimerais qu'on arrive à terminer le sujet. Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, c'est on va analyser ce qui se passe avec le bébé lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, ce soir, on fait un commentaire de Rabbi Shneur Zalman sur la paracha, puisque ce soir, c'est Aïloula. Donc, on a fait un commentaire très profond sur la paracha. Donc, on a expliqué que Va'era, ça veut dire quoi Va'era? Dieu, il apparaît au présent perpétuel, au patriarche. Même si les patriarches ne sont plus là, chacun de nous a en lui un peu d'Abraham, un peu d'Israël, un peu de Yaakov. Ok. Pour expliquer ça, on a dit que la galoute est comparée à la gestation et la Géoula comparée à l'enfantement, à l'accouchement. Ok. Quel rapport? Alors, on continue. Ou les Havin, Machalum, Litsa, pour comprendre le Machal. C'est-à-dire, quelle est la parabole? Quel rapport entre la grossesse et avec la Géoula? Il faut d'abord comprendre ce qui se passe lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère. Kin et Amrouraza, les Khamim ont dit dans la Maseret Nida, Daraj Rabbi Simla, et Rabbi Simla a fait la Drasha, il a dit, les Ma Avalad, Domé Bim Eimo. À quoi le bébé ressemble, tu veux comprendre? À quoi le bébé ressemble dans les entrailles de sa mère? Les Pinkas, Mekoupal, un calepin qui est plié.
Pinkas, c'est pas un calepin.
Donc un calepin qui est plié. Rocho Ben Birkav, sa tête entre ses genoux. Veik Votav Alik Votav, ses talons sont sur son arrière. Veochel Mimashi Mochelet, il mange ce que sa mère mange. Retenez bien les détails parce qu'on va développer chaque détail. Il mange ce que sa mère mange, fait rouler, etc. Upiv Satoum, sa bouche est fermée. Vetaburo Patouach, et son nombril est ouvert. Ça, c'est ce qui se passe dans le ventre. C'est ce que dit la Gemara. Ou que yatsa la viraola.
Ça, avant qu'on connaisse les
avant
qu'on connaisse avant qu'elle ait
la ou que yatsa la viraola. Et dès que le bébé sort à l'air du monde, c'est-à-dire dès qu'il sort, niftach hasatum s'ouvre ce qui est ouvert, ce qui est fermé, pardon. C'est-à-dire que tout ce qui était fermé s'ouvre. Venistam apatouach. Et tout ce qui était ouvert se ferme. Qu'est-ce qui était ouvert? Le nombril. C'est-à-dire que le bébé dans le ventre de sa mère, les yeux sont fermés, tout est fermé. Les narines sont fermées, tout est fermé.
Ah oui, oui.
D'accord?
Qu'elle n'est pas l'ombril, qui est le cordon-ombril.
Et le seul trou qui est ouvert, c'est quoi? C'est là, le nombril. Dès qu'il sort, tout s'ouvre. C'est pour ça qu'il pleure d'ailleurs. Pourquoi il pleure le bébé? Parce qu'il commence à respirer pour la première fois, donc ça s'ouvre. Avant, il respirait par où il respirait. Avant, il avait un câble où tout passait. Il avait un câble. Tout, bien sûr.
Bien sûr, c'est une continuité.
Tout passe par le nombril. Et là, quand il sort, le nombril, le nombril qui était ouvert se referme, et tout ce qui était ouvert, donc tout ce qui était ouvert se ferme, et tout ce qui se ferme, c'est fermé.
C'est-à-dire les narines, tout s'ouvre.
Tout s'ouvre.
Les oreilles, tout quoi.
Tout.
Non, mais disons que c'est ouvert en soi, c'est pas que c'est fermé, mais ça a pas de vocation non, à...
Voilà, ça ne fonctionne pas, il est fermé. Par exemple, même les oreilles, l'enfant, il va entendre par une voix intérieure, tout est de l'intérieur, il n'y a rien d'extérieur, tout est fermé. Tout est fermé.
Et comment ils savent ça? C'est trop loin. Hein? Ils savent ça? Ils ont pas de.
Voilà. Alors attends.
Il fatigue quoi?
Mais attends, c'est intéressant.
Bah oui.
Donc ça veut dire quoi? Si on analyse, d'ailleurs, ça veut dire. Sheyesh laouba kol chitu chayvarim. Si on analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, on va, pour simplifier les choses, on va imaginer un bébé au 9e mois.
Ah oui.
D'accord. Donc il est à terme. Il a déjà tout. Il a déjà des yeux, il a déjà des pieds, il a déjà des mains, il a déjà des oreilles, il a déjà des... Tout est là.
Il est formé.
Et pourtant, regarde, c'est intéressant le machal. Et pourtant, donc il a roche, veinaim, il a la tête, les yeux, veznaim et les oreilles. Et là seulement, shirocho mekupal umuna ben birkav. Sa tête est pliée et posée entre ses genoux. Sheino meshamesh klum, ça veut dire que sa tête ne sert à rien. Sa tête ne fonctionne pas. Mais elle fonctionne, il a un cerveau, mais son cerveau ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. Chez Eino Mechashev ou Meharer, il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Le symbole de la tête entre les genoux, c'est-à-dire que la tête est au même niveau que le genou. C'est-à-dire qu'il a une tête, mais elle ne fonctionne pas. Vechen, pareil. Enaim lo, il a des yeux. Velo irou.
Il voit pas.
Mais ses yeux ne voient pas. Veoz Naim, il a des oreilles. Velo ishma.
Il n'entend pas.
Et il n'entend pas. Vegama ma'achal shelo, même ce qu'il mange, Av shiochel mimashiimo ochelet, bien qu'il mange ce que sa mère mange, ein olechlo derechapé, ça ne passe pas par la bouche.
Ah oui.
Mais oui, ça passe pas.
Donc il n'utilise pas sa bouche. Pourtant, elle est là, sa bouche. La preuve, c'est qu'il va l'utiliser à l'instant où il sort, mais il n'utilise pas sa bouche. Rak seulement, derechatabour livnemeim bilvad, ça passe par le nombril directement dans les intestins. Le hagdil agouf, pour permettre au corps de grandir. Que moshenir evechush, comme on voit clairement, chez Betish Ayacheleda, que pendant les 9 mois de la gestation, Nigdal Goufo, le corps grandit. Comment le corps grandit? C'est qu'il a mangé. Mais comment il a mangé? En vérité, il mange pas. C'est pas qu'il a mangé, qu'il a filtré, qu'il a eu les intestins, tout a fonctionné. Non.
Tout est prêt.
On l'a juste donné de quoi grossir. Ah oui, on l'a gavé, quoi.
On l'a gavé.
Je m'excuse du terme, mais on l'a gavé.
Il se nourrit, puis il a pas de...
Donc il se nourrit pas, en vérité. Non, justement, donc il se nourrit pas. S'il n'a pas d'extrême, etc. Ça veut dire qu'il se nourrit pas, on le gave.
Finalement, il n'y a pas de passeport à l'estomac, d'accord.
On le gave. Donc ça veut dire que finalement, il n'utilise quasiment aucun membre.
Ah oui.
On est d'accord?
Comment il fait, hein? Comment ça marche,
hein? C'est un membre de sa mère.
Voilà.
Il n'utilise aucun membre.
Il utilise
pourtant, tout est là. On aurait pu penser que progressivement, le bébé commence à utiliser ses membres. Seconde. On aurait pu penser que, par exemple, dès que le bébé il a les intestins qui sont prêts, les intestins commencent à fonctionner. Dès qu'il a les narines, il commence à respirer. Faux. Tous les membres sont là, mais ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent aucun membre. Mais ils sont là. Ils sont prêts. Et dès l'instant où il sort, on coupe le nombril, d'accord ? On coupe le cordon ombilical. À ce moment-là, tous les membres commencent à fonctionner. Donc, comme Serge aimait bien les voitures, Ferrari, d'accord ? C'est-à-dire, imaginez parmi une voiture, tu vois, t'as tout ce qu'il faut. T'as le moteur, un V12.
Oui.
D'accord ? Combien de chevaux ? 1000 chevaux.
700 chevaux.
Tout est prêt. T'as le moteur qui est là, t'as les roues qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout tire avec une remorque. C'est honteux.
Il est sur le camion. Chouma.
Et à un moment, pour la première fois, tu comprends, tu l'as monté, on l'a monté, et à un moment, on le met sur le banc d'essai. Vas-y, fais-nous le bruit, Serge. Hein.
Pourtant, le bébé dans le...
Et là, t'as un peu de fumée qui sort. D'accord ?
C'est Elvi.
Est-ce qu'elle n'était pas là, la voiture, avant ? Tout était là.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Avant, on ne l'utilisait pas. Tout était là, mais on ne l'a pas utilisé. Alors, imaginez que c'est pour une voiture.
Il a des réactions, le bébé, dans le ventre de sa mère.
Oui, il a des réactions.
On fait passer de la musique... Il réagit.
Il a des réactions.
On caresse le ventre de la maman.
Il a des réactions. Il a des réactions.
Donc.
Mais sa réflexion est quasiment inexistante. Enfin, il réfléchit un tout petit peu.
Donc, il mange quand même les.
Ah oui, d'accord.
Il répond. Les membres à lui répondent à des gestes.
Bien sûr qu'il va. Bien sûr.
Il a des sons.
Il peut se faire mal. Mais ce que je veux dire, c'est que son cerveau ne se développe pas. Il n'y a pas de cerveau.
Oui, bon, le cerveau. Ah bon, pas.
Ça veut dire que le cerveau, il est là, il existe, mais il ne fonctionne pratiquement pas. Alors, maintenant. Donc aval mais liot amachal over der chapé. Ça veut dire, c'est vrai que l'enfant va grandir quand il est dans le ventre de sa mère. La preuve, c'est qu'il pousse. Mais par contre, par où ça passe ? Par le nombril. Aval mais je suis 5 lignes avant la fin. Liot amachal over der chapé. Mais pour que la nourriture passe par la bouche. Daïnou, ça veut dire shloach chayut la lève, qu'elle puisse envoyer directement de l'énergie dans le cœur. C'est-à-dire que l'enfant respire par ses propres moyens, ou misham le moach, et que cette énergie, cet oxygène remonte au cerveau. D'accord? Shem avarin et shima, qui sont les membres de la respiration. C'est extraordinaire aussi comment ça va à cette époque-là. Que le cerveau a un rôle aussi dans la respiration. On le sait, ça, aujourd'hui. D'accord? Le cerveau, l'oxygène qui arrive au cerveau, c'est très important. Mais ça, c'est uniquement une fois que le bébé est sorti. Quand le bébé n'est pas sorti, c'est une autre façon de fonctionner. Ok? Af shenik miru kol evarav. Pourtant, tous ses membres sont prêts. Veyesh bo evarayan eshima gamken. Et que même les organes respiratoires sont là. Mikol makom quand même. Are ein lo nishma druachaim. Il n'a pas d'âme d'esprit vivant. Le nishma druachaim que Dieu a donné à Adam Arishon, le bébé ne l'a pas. Comment il respire? Il respire ce que sa mère respire. Donc il ne respire pas. C'est sa mère qui respire en lui.
C'est au niveau de
l'aneshama, ça, on dit ?
Mais alors,
il n'a pas encore l'esprit de vie, bien sûr. C'est-à-dire, si tu veux, il a un début de neshama, c'est écrit comme ça, que l'aneshama, elle plane, et dès l'instant où il naît, l'aneshama commence à rentrer dans lui, après il y a la brit mila, après le mariage, etc.
D'accord, mais l'aneshama, finalement, elle ne rentre vraiment qu'à la naissance ?
L'aneshama passe par le souffle de vie. Le bébé n'a pas de souffle de vie.
C'est-à-dire qu'il sort à ce moment-là quand
il dort. Le bébé n'a pas de souffle de vie. Quel souffle il a ? Il a le souffle de sa mère. C'est pour ça dire une femme qui est enceinte, lorsqu'elle monte l'escalier, etc. Lorsqu'elle monte les escaliers, etc. Elle s'essouffle. Pourquoi elle s'essouffle ? Alors les gens ils pensent c'est parce qu'il y a le poids. C'est vrai qu'il y a du poids. Tu rajoutes plusieurs kilos. Mais c'est pas que le poids. Parce qu'en vérité, elle respire pour deux. C'est-à-dire que la mère respire pour le bébé, donc le bébé ne respire pas. Le bébé ne respire pas par sa propre respiration. Donc il n'a pas de respiration personnelle. Pourtant, il a de quoi respirer, mais il n'utilise pas.
Et tout à l'heure, dans un autre cours, vous avez dit que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il a toute la paracha dans la tête.
Oui.
Alors, et là, vous dites qu'il n'a pas le cerveau.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de cerveau. Il a un cerveau.
Il a un cerveau.
Ça veut dire que, si vous voulez, il n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas ses membres.
Mais comment il peut avoir la paracha dans la tête?
Parce que c'est un ange, c'est comme ça, les chamas, etc. Mais la compréhension du cerveau, il ne l'a pas. Bah. C'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé.
C'est quoi qu'il a en tête? C'est tout à Torah avec une paracha?
Quoi? Toute la Torah.
Donc on dit
Mikol Makom, Hachiyetzel Avira Olam. À quel moment tout bascule? Dès que l'enfant dès qu'il y a l'accouchement. Donc l'accouchement est un moment très important. Ça veut dire que tu as passé 9 mois à préparer la voiture dans le garage, mais elle n'est pas sortie. Tu as fait la carrosserie, tu as fait la peinture, tout fait, mais elle n'est pas sortie. Et après on sort, et là arrive le moment de vérité. Fallait-il respirer? Chez Az Motsiakol. Et là, qu'est-ce qu'il fait le bébé? C'est quoi la première chose qu'il fait le bébé?
Il crie.
Il émet un son. Que Moshe Amrou Razal, comme les Chachamim disent, chez Ou Siman Aleda. Que ça, c'est le signe de la naissance. Quel est le siman de l'accouchement? C'est le son. Parce que un accouchement, c'est quoi finalement? C'est un bébé qui sort. Mais c'est pas ça l'accouchement. Parce que le bébé, il sort, il peut sortir et re-rentrer. On a des cas comme ça. C'est un bébé qui commence à sortir et qui re-rentre. Parce qu'il n'arrive pas à sortir. Quel est le siman qu'on a l'Eda, qu'on a l'accouchement?
Le son.
Dès qu'il y a le son. C'est-à-dire, dès qu'il y a le son, on te dit, même si le bébé n'a pas fini de sortir, tout de suite, il faut le faire sortir. Parce que dès qu'il y a le son, ça veut dire que le bébé, il est déjà passé dans la fascia. Le son. Un son.
Donc, il devient autonome. Là.
Mais c'est quoi le son?
Il crie.
Ah
il faut le couper. Le...
Pas du
non,
tout.
Non. Hein sans le couper.
Sans le couper. Il émet déjà le son.
Ah bon?
Bien sûr. D'accord?
Ah, je sais pas ça.
Ah, David, il faut recommencer. Hein.
Bah, t'es pas gynéco, c'est normal que tu dis pas ça. Alors, dès que le bébé commence à sortir, il y a un moment, il y a un switch, il y a un moment dans lequel le bébé commence à pleurer. Des fois, le bébé, il est pas encore sorti entièrement.
C'est un moment où tu...
Pas du tout. C'est-à-dire que le bébé, c'est quoi le siman de la naissance? C'est quand le bébé, il émet un son.
Le cri.
Ah, d'accord.
Le cri.
C'est bon signe.
Alors, c'est exactement. C'est un cri qui est bon signe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on sait que les premières...
Mais quand il crie pas d'ailleurs, on le tape et tout ça pour que...
Exactement.
Pour
qu'il décrit, d'accord.
On le renverse, on les prend par le pied.
Ah tac, oui. Les premières secondes sont cruciales. Après l'accouchement.
Ah bon?
Ah, bien sûr. Première seconde, on dit que les deux premières minutes, c'est crucial pour le bébé enfant. Quand Dieu nous protège de tout ça. D'accord? Donc, à quel moment le bébé met le son, en général, c'est dès qu'il a sorti sa tête. Comme il a sorti sa tête, il commence à respirer par ses propres moyens, et là, il émet un son. Pourquoi il émet un son? Parce qu'il a commencé à respirer. C'est-à-dire que dans le ventre de ses mains, il n'émet aucun son. Il ne parle pas. Pourtant, il a une bouche. Et là, les organes respiratoires, mais ils ne l'utilisent pas.
C'est comme tu nages en apnée, c'est pareil. Tu es sous l'eau, dès que tu sors, tu respires.
Velachet, c'est pour cela.
C'est incroyable.
Velachet, maintenant, on n'est pas venu pour faire aujourd'hui un cours de gynécologie. Mm-hmm. Notre but, n'oubliez pas, c'est qu'après, on va comparer tout ce qu'on vient de dire à la galouche.
Ah oui. D'accord.
Bon, et on ne va rien laisser au hasard.
Concentré, je te dis.
Velachet.
La reine, c'est pour ça la dernière ligne. Tant que le bébé est dans le ventre de sa mère, il n'envoie pas d'énergie aux organes respiratoires. Et là, les verrés Amazon Milvan, il envoie de l'énergie seulement aux organes, d'accord, de la nourriture qui lui permet de grossir. Derrière Taburo, par son nombril, comme on a expliqué, chez Sham ou Mishkan Abdemeaim. Que, en fait, on envoie, comme on aurait dit, en intraveineux. C'est-à-dire que, pourquoi le nombril? Parce que le nombril, il est à côté des entrailles. C'est-à-dire qu'on passe pas par la bouche et par la respiration, etc. On va directement aux entrailles. Et c'est là-bas qu'on pousse l'enfant. Machen ken rosho im kol an ivaraneshima, alors que le reste de sa tête, avec tous les organes respiratoires, en meshamshim klum, ne servent à rien. Dans le vent de la mer. Vareem ke metim, et ils sont comme des organes morts. Velachen, c'est pour cela, rosho mutal ben birkav. Et c'est pour ça que sa tête est posée entre ses genoux. Parce qu'elle n'a pas de vitalité. Une tête qui a de la vitalité se lève. Une tête qui n'a pas de vitalité se pose. Où elle se pose? Entre les genoux. C'est-à-dire qu'elle est comme des genoux.
C'est un socle.
D'accord. Comme toutes ces paroles, comme tous ces détails qu'on a expliqués. Et comme tout ce machal qu'on a expliqué, toute cette parabole. Car de la même façon, Nimshel ou Bnei Israël, Beta Galout. De la même façon sont comparés les Bnei Israël pendant l'exil. Quel rapport? Dirti, parce qu'il est écrit, Hashem Mimarom Ishag. Dieu du ciel crie. Donc Dieu crie depuis le ciel. On va expliquer. Pirouche, ça veut dire, que Moshe Katou Bezoar, comme c'est expliqué dans le Zohar, des sali kuchabrihu le ela. Que Dieu, il monte en haut. Octif, c'est écrit. Rachel mevaka albanea, qui est né. Rachel, elle pleure sur ses enfants, car il n'est pas là. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Dieu, kaviachol, se cache. La vitalité de Dieu se cache. On va expliquer tout de suite. Ou pirchou bezoar. C'est expliqué dans le Zohar. De kaya la kadosh baruchu. Que la galoute, c'est quoi? En fait, on parle de Dieu. qui nous bego benaa, que Dieu n'est pas parmi ses enfants, comme si des salik, car il disparaît. Pirou, ça veut dire chez silek shrinato vegilu ilahuto matertonim, Dieu enlève sa shrina et le dévoilement de sa divinité des êtres inférieurs, donc nous, vedomel einebassar, et celui qui voit de prime abord, qui voit les choses extérieurement, il a l'impression.
Il ressemble à quoi?
Que ilu a olam davar bifnatmo, comme si que le monde était une entité indépendante. Ve hashmen leva'am, donc le cœur du peuple s'engraisse. Ve einav asha, et ses yeux s'épaississent, ça veut dire qu'il regarde n'importe quoi. Et naim la'em veloir, ou ils ont des yeux mais ils ne voient pas ce qu'ils doivent voir. Ils ne voient pas or hashem, la lumière de Dieu qui va shamaim imal v'laratzvita chatenod. Comment? En vérité, dans le ciel et partout, il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Va filu ashpat mitzvot ou masim tovim, et même, on va expliquer tout de suite, hein, et même l'émanation des mitzvot et des bonnes actions chez Eim Mazon la Nefesh, qui sont la nourriture de l'âme, et il ne over la Eim derech haneshima, il ne passe pas par les organes respiratoires, l'ishloar chayut, les lèvres ou les moires, pour envoyer la vitalité au cœur.
Et au cerveau.
Et au cerveau. Les mains d'Ata Hashem afin de connaître Hashem ou le Avoto et de l'aimer. Ou le Avdo, Bechol Levam, Belev Shalem, Nefesh Rafetza, ou Tchouka Mokashet, Belev Kirishvet, Shalem, Vetimon. Qui im Shinyan Shenema. Seulement, c'est comme ce qu'il est écrit. Va Teir Atamoti. Je fais encore une ligne, on va expliquer, hein, parce que là, il faut expliquer beaucoup, là. Que Dieu, le prophète, il dit que la crainte d'Hashem que nous avons, Mitzvah Tanashim Elumada. C'est une routine. Da'inu, ça veut dire, Bibrinat Asiya Gashmid Bilvad. On se contente à faire les choses matériellement, d'accord, et donc techniquement, on peut écrire route et de façon froide. Bon, alors qu'est-ce qu'il raconte ici,
d'accord? De façon comment?
De façon froide, de façon détachée. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? En fait, tout était dans le machal qu'on a expliqué. Rappelez-vous le bébé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Les organes sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Les yeux sont là, mais ils ne voient pas. Les oreilles sont là, elles n'entendent pas. Je parle surtout des organes respiratoires, parce que quel est le rôle des organes respiratoires? C'est d'envoyer l'énergie au cerveau et au cœur. Qu'est-ce que ça représente dans le service divin, le cerveau et le cœur? Le cerveau représente la compréhension d'Hachem, comprendre le chemin d'Hachem, avoir ça dans la tête. Le cœur représente ressentir le chemin d'Hachem. Maintenant, quelle est notre nourriture? Quelle est la nourriture de l'âme? C'est la Torah et la Mitzvot. Si tout se passe comme il faut, comme c'est à l'époque du Beit HaMikdash, tout s'ouvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par où un juif il mange, par où il fait les mitzvot, directement, ça passe par ses organes respiratoires. C'est-à-dire qu'une mitzvah le fait vivre, une mitzvah le fait respirer, une mitzvah le fait vibrer, une mitzvah le fait réfléchir. Ça c'est quand on n'est pas en galoute. Mais quand on est en galoute, par où elle passe tes mitzvot? Par le nombril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu grossis, tu rajoutes des mérites. Tu dis, ah, j'ai fait des mitzvot, j'ai fait des mitzvot. Tu grossis. Mais tu ne vis pas. La mitzvah ne te fait pas vibrer. La mitzvah, tu ne la ressens pas. Tu as des yeux. Pourtant, tu fais la mitzvah. J'ai mis les tefillin ce matin. Les organes sont là. Mais ils ne fonctionnent pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, attendez. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est que lorsque ma chère va venir, quels organes on va utiliser? Lorsqu'il y a l'enfantement, quels organes le bébé va utiliser? C'est pas des nouveaux organes qu'il va utiliser. Il va utiliser les mêmes organes qu'il avait, mais qui n'étaient pas en fonction. Il va commencer à les utiliser. Ça veut dire que lorsque ma chère va venir, dit le Rambam, ne croyez pas qu'il y aura un nouveau monde. Armageddon. D'accord?
C'est le même.
C'est le même.
Armageddon.
D'accord? C'est le même. Alors, comment ça fonctionne?
Ouais.
Seulement, ce qui ne fonctionnait pas va fonctionner.
Chez toi.
Comment tu expliques? Normalement, tu mets les tefillin. Tu devrais trembler quand tu mets les tefillin. Tu devrais vibrer. Tu viens un cours de Torah. On devrait trembler quand on étudie la Torah. C'est ce qu'on étudie là. On étudie la Torah d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans sa Torah. On est en train d'étudier la Torah d'Hachem. Ce soir, on étudie l'enseignement de Rabbi Shneur Zalman. Il dit la Torah d'Hachem. Tu sais que, au moment où on parle maintenant, les lèvres de Rabbi Shneur Zalman dans sa tombe sont en train de bouger en même temps que nous. Et il est en train de prier pour nous. T'imagines? Rabbi Shneur Zalman, ce soir, ça il ou là, il est en train de prier pour nous. D'accord? Les Chaim. Tu dis, mais attends.
Chaim, les Chaim.
T'imagines? Et nous, on est là. Alors, on entend ce qu'on dit.
Avec de l'eau.
D'accord?
Je conduis ce soir.
Tiens.
Pierre, tu travailles ce soir? Je conduis ce soir et ce soir, je travaille après.
Un petit peu.
Une arme chère.
Ah, d'accord. Nous, on est là. Amen. Nous, on est là. On entend ces choses-là. Est-ce que ça nous fait vibrer? On a du mal à vibrer. Pourquoi on a du mal à vibrer? Parce que ça passe par le nombril.
Donc?
Vous savez, c'est comme, je pourrais vous donner un autre exemple, c'est comme quelqu'un qui est à l'hôpital et qui ne peut pas manger. Ouais, comment on le nourrit?
On le nourrit par 2-3 ans.
Par les veines. Et il nourrit, on peut le nourrir. Vous savez qu'il peut, même faim, grandir comme ça.
Il n'a pas faim.
Non, mais il n'a pas faim.
Il
n'a pas faim du tout et il peut grandir. Il peut rester des années comme ça. Il peut rester des années. Alors comment ça fonctionne? En intraveineuse. C'est-à-dire que son corps ne fonctionne pas. Dans le ventre, c'est encore pire. Parce que là, au moins, le corps fonctionne. Il fonctionne.
Il respire,
voilà. On peut l'aider à respirer, mais il respire.
Il est l'enfant.
Dans le ventre de la mère, il ne respire pas. L'enfant ne respire pas. Pourtant, les organes respiratoires sont là. Donc, spirituellement, ça veut dire quoi, hein? Spirituellement, comme il dit ici, ça veut dire que Akadosh Baruch Kaviachol se retire. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vitalité. Et même ce qui est censé t'amener de la vie, comme la Torah, comme les mitzvot, ça ne t'apporte pas de la vie comme ça devrait t'apporter. Et c'est ça le vrai problème de la galoute. Les gens, ils pensent que le problème de la galoute, c'est quoi? Le problème principal de la galoute, c'est qu'on est bloqué ici, c'est qu'on est dans tel pays ou dans tel pays et qu'on est, on est à la merci des nations. Ça, c'est un détail. Le vrai problème de la galoute, c'est que la shrina est en galoute. C'est que Dieu n'est pas dévoilé. C'est-à-dire que même quand tu fais des choses qui devraient te faire vibrer, ça marche pas. C'est-à-dire que tout devient mécanique. Tout devient par routine. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un, ce soir c'est l'anniversaire de sa femme.
Ça transforme.
Qu'est-ce qu'il va aller? Comme il sait que c'est l'anniversaire de sa femme, il a mis un rappel dans son téléphone, qui sonne une fois par an, et qui lui rappelle acheter un bouquet de fleurs.
Honteux.
Et il est parti comme une machine.
Non.
C'est honteux.
Franck, franchement.
Il a besoin d'un rappel.
Attendez. Vous savez pas, c'est quoi la meilleure façon de se rappeler l'anniversaire de sa femme?
iPhone.
C'est de l'oublier une fois.
Ah oui, tu dis, je vais le rappeler. Khazak. Khazak, c'est pareil.
Pas mal, hein.
Ta valise est prête, on part en vacances? Non, tu pars en vacances.
Alors.
Ta mère.
Alors, reprenons. Imagine-toi par exemple quelqu'un, tu comprends. Il a mis un rappel sur son téléphone. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma femme. Chaque année, il y a un rappel qui sonne. Achetez bouquet de fleurs.
Donc, c'est bien comme ça.
Deux secondes. Et il va aller comme un robot. Il va aller acheter le bouquet de fleurs. C'est même écrit dans l'application, acheter bouquet de fleurs à 50 euros. Elle va même donner le prix, tu vois. Il va aller, il va acheter le bouquet de fleurs. Il a payé.
Mais c'est même pas.
Et il se passe seulement ça, il vient avec un bouquet de fleurs. Et dans l'application, c'est écrit aussi faire un sourire. Alors il vient avec un sourire.
Facebook.
Etc. D'accord? D'accord? Etc. Maintenant, on lui dit, t'as amené le bouquet de fleurs. Mazal Tov, t'as fait un sourire. Mais toi, t'étais où? C'est-à-dire que des fois, on peut faire les choses sans y être. Ça, c'est le problème de la galoute. C'est exactement comme le bébé dans le ventre de la mère. Il fait les choses. La preuve, c'est qu'il grandit. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est-à-dire que ses organes ne fonctionnent pas. Sa tête ne fonctionne pas. Son cœur ne fonctionne pas. Donc, spirituellement, ça veut dire quoi? Il fait les mitzvot. Il fait ce qu'il faut. Mais sa compréhension de la chaîne ne fonctionne pas.
Mais pour vibrer.
C'est deux secondes. Ses pulsions, d'accord, divines ne fonctionnent pas.
Pour vibrer, il faut la guérir.
Pour vibrer,
on ne peut pas vibrer en faisant des choses répétitives tous les jours.
C'est faux.
Tes feelings, c'est tous les jours. Tu ne peux pas vibrer tous les jours, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous en savez?
Parce que vous n'aimez pas trop ce que vous faites.
Mais on ne peut pas vibrer.
Parce que quelque chose qui...
On vibre quand c'est quelque chose d'exceptionnel.
Ça fait partie de la galoute.
Ça, c'est pas vrai. Ça.
Quand c'est exceptionnel, on vibre.
S'il y a quelque chose qui est
répétitif tous les jours, on ne vibre pas.
Monsieur Benita, j'ai une question à vous poser.
Est-ce que... Non,
parce que je ne peux pas.
Je l'aimerais bien.
Est-ce que je peux pas?
Eh oui, arrête. Il est honnête, Charles.
Est-ce que je peux?
Monsieur Benita, il rigolait.
Voilà. Ouais, je m'en fous, mais j'ai rien dit de mal. Hein.
Bon, Monsieur Benita, sérieusement. Non, on va réfléchir ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les organes étaient là, tout fonctionnait.
Non, j'ai
mais alors, deux secondes. Je t'arrête de vous dire. Prenons par exemple l'exemple de la respiration. Okay. Une personne, on l'espère, il respire depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Pourtant, le respirer, c'est un acte répétitif. Mm-hmm. C'est un acte que vous répétez des dizaines de milliers de fois par jour. Mm-hmm. Mais vous ne lassez jamais de respirer. Parce que c'est vous, c'est votre vie.
C'est bon.
Comment personne ne va te dire « Ah bah ça m'a saoulé de respirer. » Ou bien, tu vas voir, entendre. Tu ne peux pas te lasser. Pourquoi tu te laisses pas? Parce que c'est toi, c'est ma vie.
Tu as besoin.
Alors comment tu expliques qu'on ne ressent pas la même chose pour une mitzvah? Quand je fais une mitzvah, je ne ressens pas que c'est comme de l'air. de l'oxygène. Ouais, bah, voilà. J'en ai besoin. Et que dès que tu manques un peu une mitzvah, voilà. Dès que tu es en retard pour les tefilines, amène-moi de l'air. Pourquoi tu ressens pas ça? Eh ben ça, Rabotai, ça c'est la galoute. C'est ça la galoute.
Ah, bah oui, c'est la galoute.
C'est ça la galoute. Le vrai enjeu de la galoute, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on n'a pas la galoute là. Le vrai enjeu de la galoute, c'est quoi? C'est ça. C'est que, on respire par le nombril. Donc en fait, tout est mécanique.
On est bloqué.
T'as quelqu'un qui respire pour toi.
On est bloqué.
T'as quelqu'un qui te dit, bah, appuie sur un bouton, j'appuie sur le bouton. Et tout est mécanique. Non, tout est mitz. Comment il dit le prophète? Va te ir atamoti mitzvat Hashem ilumada. Même la crainte d'Hachem peut être une routine.
Ben oui, mais
même la crainte.
Bien sûr,
pourtant, oui. La crainte, c'est censé être un sentiment. Je veux sentir que j'aime. Même la crainte peut être une routine. Tout peut devenir une routine. Oui, ça, ça arrive à quel moment? Ça arrive quand on est en galoute. Donc, ce que vous dites, en vérité, c'est ça, la galoute.
Oui, mais étant donné qu'on le fait tous les jours, mais ça devient une routine.
C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est que vous ne comprenez pas de quoi je parle, parce qu'en vérité, moi non plus. Parce qu'en vérité, on est en galoute, on vit en galoute, on est né en galoute, donc on ne sait pas ce que c'est la Géoula.
J'ai compris.
Donc, l'Admor HaZaken, pour essayer de nous expliquer ce que c'est la Géoula, il te dit, tu veux comprendre ce que c'est la Géoula? Il faut que tu comprennes comment était le bébé dans le ventre de la mère, et comment il est lorsqu'il est sorti. Maintenant, nous sommes comme le bébé dans le ventre de la mère. Ça veut dire que les organes sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Nos organes spirituels ne fonctionnent pas.
C'est pas de ça.
Donc tu viens de dire qu'on a les organes
qui fonctionnent pas. Je dis simplement qu'on peut pas vibrer quand on fait des choses tous les jours.
Vous en savez rien du tout.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en savez?
Parce que je l'ai essayé.
Mais non, vous savez pas.
Vous vibrez pas tous les jours.
Je vous donne de la respiration. Votre corps vibre de la respiration.
Manger tous les jours, c'est pas
difficile. Même manger.
Et pourtant.
D'accord.
Manger.
Bah oui. Non, mais je parle même de respirer. Votre cœur, maintenant, il est content de respirer. Tout le temps, il est content. La preuve, c'est que si Chas et Shalom, on l'arrête un seul instant, il n'est pas content. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est quelque chose de vital, tu te lasses jamais. C'est vital. Comment tu expliques que je ne ressens pas la même chose pour une mitzvah?
Je respire, mais je vibre pas parce que je respire.
La preuve que
si je m'étais fêlé, je vibre pas.
La preuve que vous vibrez, c'est que si on vous arrête, si Chas et Shalom, quelqu'un vous empêche de respirer, vous sautez en l'air. Alors que si quelqu'un vous a empêché de mettre les tefillines un jour, je ne sais pas si vous allez sauter en l'air.
Non.
Pourquoi?
Ben non.
Pourquoi? Parce que vous ne sentez pas.
Vous allez être gêné. Vous avez l'habitude de mettre des films tous les jours. Si un jour vous avez un empêchement ou machin, vous dites là, vous allez pas. Ah, vous
une fois, une fois, deux fois. Mais pas comme la respiration.
Oui, ça va manquer. Mais ça va manquer.
Un peu, au début. Mais on est très très loin de la respiration. On est très très loin de la respiration, de vibrer. D'accord? Exactement. Parce qu'en fait, voilà, Michel a dit le bon mot, parce que c'est vital. On ne ressent pas que la Torah et les mitzvot sont vitales pour nous. Pas autant que les organes respiratoires. Ça, c'est le phénomène de la galoute. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a Mashiach? Veine. Tachlit Hashlemut.
Au milieu, comme la respiration.
Veine. Tachlit Hashlemut. Le summum de la perfection. Shel Yemot HaMashiach. Des temps messianiques. Shehu Prinat. Quel est le summum? Les gens, quand ils en parlent de Mashiach, c'est quoi Mashiach? Je dis, ah, Mashiach! Eh ben, je sais pas, on nous laissera tranquille, on n'aura pas besoin d'aller travailler, on n'aura pas besoin de ça. C'est pas ça!
On va buller.
C'est pas ça! Tachlit Hashlemut! Tachlit Hashlemut! Le summum de la perfection. C'est quoi le summum de la perfection de Mashiach? C'est quoi? C'est la naissance. Shouprinat Leida, Veid Galut Orachem. C'est lorsque la lumière de Dieu se réveille, Bekerev Ish, chez chacun, Velev Amok, et dans la profondeur du cœur. Comme il est écrit, Veniklak Kvod Hashem. Le Kavod de Dieu se dévoilera, Veraou Kolbasa. Et toute chair verra. Toute chair verra. C'est-à-dire qu'avec mes yeux, je pourrai voir la divinité. C'est ça la plus belle prophétie messianique. Uktiv, il est écrit, Ki Ain Be Ain Iru. On pourra voir Dieu l'œil dans l'œil. Ça veut dire direct. Sans passer par des imaginations interposées. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça dépend de notre travail et de notre service d'Hachem pendant l'exil. Parce que rappelez-vous, le bébé ne peut pas naître s'il n'y a pas eu de gestation. Maintenant, celui qui ne sait pas ce qui est passé dans le ventre de la mer, il dit, moi, ce qui s'est passé dans le ventre de la mer, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai vu un bébé qui est sorti, c'est là que ça commence. Lui dit la Torah, c'est faux.
J'ai compris.
Ce que tu as vu, au bout d'un fois, c'est une naissance. Mais en vérité, ce bébé, il n'a pas commencé maintenant. C'est pour ça que chez nous, l'avortement, c'est interdit. D'accord? Pourquoi? Parce que tout a commencé dans le ventre de la mère. Donc c'est le chidouche de Morazaken. Je te dis, si tu crois que tout va commencer lorsque Mashiach arrive, t'as rien compris. Lorsque Mashiach arrive, c'est l'enfantement. Mais à l'enfantement, on pourra faire profiter au bébé seulement, seulement des organes qu'il a bien voulu créer. Mais les organes que le bébé n'a pas créés pendant la gestation, ben il ne les aura pas. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas fait pendant la galoute, Mashiach ne te donnera pas.
Exemple.
Par exemple.
Très simple. Merci. Ça veut dire comme ça. Très simple, j'explique ce que ça veut dire.
Ça, je t'aurais fait quoi, enfin,
imaginez par exemple dans le ventre de la mer. Le bébé au début, il n'avait pas les pieds.
Il jouait avec une balle.
Il a eu les pieds. Maintenant, imaginez un enfant qui dit, écoute, c'est pas grave. Moi, je vais sortir à 6 mois sans les pieds et je ferai les pieds dehors.
Ah ben non.
Ah ben non, ça peut dire.
Pourquoi il a pas que ça change. Je suis autonome,
Il, dans la couveuse, il peut les faire.
Pourquoi il peut pas les faire. Les pieds, il n'a pas de pieds. Pourquoi il peut pas. Ce qu'il pouvait faire dans le ventre, il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que dehors, une fois que la personne est née, c'est fini.
Oui, mais tu respires.
C'est fini. Une fois que la personne est née, il ne peut plus générer de nouveaux organes. Donc, la création de nouveaux organes peut se passer que dans le ventre de la mère.
Dans le ventre, tu peux.
De la même façon, à Mashiach, on ne peut pas générer de nouveaux organes. Tu peux pas dire, attends, mais je vais rajouter. Tu rajoutes pas. Ce que t'as préparé pendant la galoute, il est là. Maintenant, toi, tu crois que ça marche pas. Tu dis, oui, mais j'ai mis les filines, les filines, ça marche pas. Attends. T'es en train de faire le bébé.
Donc, les filines.
On sort à mille pattes.
Donc, voilà. Et là, tu sors. Et là, quand tu sors, tu comprends. Ouais. Tu te rends pas compte. Tu dis, j'ai mis les filines, ça m'a rien fait. On dit, mais attends, c'est normal, ça t'a rien fait. J'ai fait Shabbat, j'ai rien senti. J'ai mangé cachère, j'ai rien senti, ça change rien. Tiens, attends.
Tu t'es formé.
Là, tu es encore en intraveineuse, mais c'est pas grave. Mais c'est important que tes organes se forment. Mais ils ne fonctionnent pas encore, tes organes. À quel moment tes organes spirituels vont commencer à fonctionner? Lorsque le Mashiach arrive. Et là, tu vas voir que tes propres organes que tu as créés vont commencer à t'être utiles à toi. Pour respirer par tes propres moyens.
Costume trois pièces.
On commence à comprendre beaucoup mieux le rôle de l'exil. Vous savez, Al-Mourad Zakin est dans un autre endroit. Il dit que, comment on dit en hébreu l'exil? Gola. Gola.
La France.
D'accord?
Oui.
Et comment on dit la délivrance? Géoula.
Géoula. Ah oui, Géoula.
Quelle est la différence entre Gola et Géoula? Aleph. Gola, ça s'écrit Gimel, Vav, Lamed, He.
Gola,
c'est l'exil.
L'exil.
Gimel, Vav, Lamed, He. Géoula, je rajoute un Aleph.
Ah, c'est
comment tu expliques ça? Que l'exil et la délivrance, c'est exactement le même mot, sauf que non, on rajoute le Aleph. C'est qui Aleph? C'est quoi Aleph? Aleph, c'est Hachem. C'est quoi Aleph? Aleph, c'est or, c'est la lumière. Ça veut dire que toi, tu crois que lorsque Mashiach arrive, Dieu va tout donner. D'accord? Toi, tu crois que lorsque Mashiach arrive, Dieu va tout donner. C'est faux. On dit, lorsque Mashiach arrive, Dieu allume la lumière. Or. Il dit, j'allume la lumière et je te montre ce que tu as fait. Je donne souvent ce machal. C'est comme, imaginons, on te met dans un cockpit. D'accord? Et on te dit dans ce cockpit, on te bloque toutes les fenêtres, tu vois rien. On te dit, il y a des boutons, tu vois, ça, tu peux toucher, ça, tu touches pas. T'as plein de boutons. Vous êtes dans un cockpit, des centaines, peut-être même des centaines de boutons, partout. Pardon. Des fois, il y a un bouton comme ça, avec une lunette un peu rouge, comme ça, t'as envie de cliquer dessus, tu vois. Mais on t'a prévenu, il faut pas toucher.
Ici.
D'accord? Ici, l'électron. Maintenant, tu vois, tu touches, il se passe rien. Bon, tu touches une fois, deux fois, il se passe rien. Parce que tu vois pas ce qui se passe. Donc tu dis, tu retouches, troisième fois, c'est pas grave. Après, on te dit, il faut toucher le bouton. Mais tu touches le bouton, tu vois pas qu'il se passe quelque chose. Tu sens pas que tu montes, tu descends, etc. Tu dis, bon, ce bouton me casse les pieds, je préfère celui-là. Il est plus intéressant. À la fin, tu fais ce que tu veux. Après, arrive le jour où l'entraîneur de vol, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le rideau.
Oh là là,
tu vois les dégâts.
Tu regardes. Là, t'as construit une ville. Là, t'as détruit une ville. Là, t'as envoyé un missile. Là, t'as construit, là, t'as fait ça. Alors tu dis, attends. J'ai compris. Laissez-moi au cockpit, j'ai envie d'appuyer le bouton.
Non,
le moteur est éteint maintenant. Maintenant, ce que tu as construit, tu vas profiter. Si tu n'as pas construit, tu n'as pas construit.
Ah, c'est grave pour ceux qui feraient tout.
C'est très grave.
Voilà.
Ça veut dire que, ce qu'on te dit, lorsque Kadosh Baruch Hu envoie la Géoula, il ne te met pas dans un nouveau monde.
Donc après, c'est fini,
c'est bon. Il allume la lumière du monde que tu as créé.
Tu as construit.
Je vais expliquer la profondeur de ce message. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'exil, c'est comme on est au piqué, tu vois. Alors, t'as fait le malin, tu es au piqué, tu attends la bâche quand je t'appelle. Le Morazaka ne dit pas du tout, c'est pas ça l'exil. L'exil, c'est Dieu t'a dit, comme tu as fait le malin, je vais te donner l'opportunité de créer la Géoula. Pendant la Galoute, on crée l'avènement messianique. On ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Exactement comme un bébé dans le ventre. C'est-à-dire, t'es pas au piqué en train d'être puni. Dieu, en fait, il te dit, ta punition, c'est ta solution. C'est que quand tu es puni, tu vas créer ta Géoula. Et quand j'estimerai que tu es prêt, là, je te fais l'accouchement, et là, tu vas profiter de ce que toi, tu as construit. Ça change tout. C'est ça, la Géoula. Ça change tout, ça. La Géoula, c'est l'enfantement. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Géoula est comparée à l'enfantement. Ma mâche, elle correspond parfaitement. Parfaitement. Je n'ai pas fini. D'accord. Parce que n'oubliez pas, il faut qu'on revienne le patriarche.
Est-ce qu'on peut unir toutes nos forces avec chacun d'entre nous?
Bien sûr qu'on est toutes nos forces.
Mais c'est ce qu'on nous demande.
C'est ce qu'on fait. Clal Israël.
Clal Israël.
Vézé ou.
On forme un cercle. Un cercle qui est tout uni.
Vézé ou Shema Israël. Vézé ou. Le Shomo Beit Galut. Vézé ou Shema Israël, Hashem el Kenu Hashem Echad. Et c'est pour ça qu'on te dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, ve'ahavta et tu aimeras. Pourquoi on a besoin de te rappeler d'abord que l'Éternel est un avant de dire tu aimeras? Pourquoi on te dit ça? Il explique, ki inet tzarich lavin milat echad. C'est quoi echad? C'est intéressant comme texte. Le texte ne te dit pas directement tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il te dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comme si on était en train de dire que le postulat de base avant d'aimer Hachem, c'est d'accepter qu'il y a un Dieu. Pourquoi?
C'est le postulat.
Et imagine-toi quelqu'un qui dit je crois qu'il y a deux dieux, mais je l'aime celui-là. Chazé Shalom. Je veux dire, pourquoi c'est très important de comprendre qu'il y a Echad avant d'arriver à Ve'ahavta? C'est exactement en rapport à ce qu'on a dit. Il dit ki in et tzarich lavin milat Echad. Il faut comprendre le mot Echad. She'ein omore lir'ora al amitit chodo itbarer, she'hu levado uvefazulato. Ven milat echad alze, mora alze, shariyesh echad amanu gamken. D'accord? Il dit comme ça. Il dit echad, ça veut dire quoi? Comment tu traduis, comment on traduit echad en hébreu?
Unité.
Mais c'est pas le bon terme qu'on devrait dire à Dieu. On devrait pas dire pour Dieu un, on devrait dire unique.
Unique, oui, ça.
Parce que quand tu dis un, ça laisse entendre qu'il y a un et qu'il peut y avoir deux. Même si on sait qu'il n'y a pas deux, mais un, c'est un chiffre.
C'est défini.
C'est défini. Exactement, comme tu disais, Razak. C'est un chiffre qui peut se compter. C'est défini. Ça veut dire qu'il y a un, il peut avoir deux. Donc le un, il laisse la place au deux. Parce que s'il y a un, il peut avoir deux. Donc le terme qu'on aurait dû dire sur Hachem, c'est quoi?
Unique.
On aurait dû dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Yachid. Dieu est unique, Yachid. Prends dit Echad. C'est quoi le terme Echad?
C'est le premier.
Non, pardon. C'est faux. Si vous dites ça,
ça veut dire qu'il y a un second.
Voilà.
Ouais. Alors
pourquoi tu dis pas unique? Quand tu dis unique, il est unique. Ah oui, mais je comprends, mais c'est pas le bon mot. Parce que unique, par définition, il est unique. Et il sera toujours unique. Ouais. Parce qu'il peut pas ne pas être unique. C'est-à-dire, s'il est unique, il peut pas avoir deux.
Ouais, toujours dans la pensée qu'on a Shem Echad, c'est unique.
Non.
Mais c'est vrai que...
Non, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est éteint.
Pas éteint, la lumière.
Oui. On aurait dû dire l'Éternel est unique.
Ah oui, alors oui.
Alors? Comment ça marche?
C'est le prêt-à-porter, là.
Alors, il dit non. Tunique. En vérité, évidemment, par rapport. Je vais expliquer à l'oral, sinon on n'aura pas le temps de finir. Il dit en vérité, évidemment, qu'un cadeau est unique, il n'y a pas de question dessus.
Bah oui.
Seulement quoi? Le mot un ici ne veut pas te montrer que Dieu est unique. Comme dit Yves, tout le monde sait que Dieu est unique. C'est pas ce qu'on veut t'apprendre ici. Le terme un ici veut dire l'unicité d'Hachem. Que Dieu est un, ça veut dire que tout est Hachem. C'est-à-dire que la table c'est Hachem, la chaise c'est Hachem. Exactement. C'est ça le chidouche. Maintenant, tu peux pas aimer Hachem, ve'ahavta, si t'as pas compris que tout est Hachem. C'est-à-dire que tout passe par le fait d'accepter qu'il y a Hachem Echad. Tu peux pas dire, moi j'aime Hachem, je l'aime sans comprendre ce que c'est. Ça c'est celui qui respire par le nombril. Que lui il dit, moi j'aime Hachem, mais j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. On dit, pas de problème, tu crois que tu aimes, c'est rien du tout. Tu veux vraiment aimer Hachem, par où ça passe? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, ça veut dire quoi, Echad? Ça veut dire que d'abord, tu dois comprendre, tu dois accepter que tout est Hashem. Tu dois le comprendre, ça. Et ça, tu le comprends par qui? C'est pas par ta mère. C'est pas par le ventre. C'est par toi, par ton cerveau. Tu dis, oui, mais j'arrive pas. On te dit, tu dois essayer. Oui, mais j'arrive pas. Tu dois essayer parce que quand tu essayes de faire, tu génères des membres. Et ces organes que tu génères te seront d'une grande utilité lorsque ma chair viendra. Ça, c'est écrit dans la Gemara, elle dit que lorsqu'on arrive en Gan Eden, je parle pas de Mashiach, lorsqu'on arrive au Gan Eden, Akadosh Baruch Hu nous présente seulement les dossiers qu'on a vus lorsqu'on était en bas. C'est pour ça que c'est écrit que c'est important de varier son étude ici-bas. Des fois, tu viens à un cours de Tania, tu crois que t'as pas tout compris. De quoi ça sert? J'ai pas tout compris. Explique la Gemara, elle te dit, que quand tu étudies quelque chose en bas, en haut, on te repasse le même programme. Et là-bas, tu le comprends. Donc si dans ta vie, ici-bas, tu repasses toujours les mêmes choses que tu connais déjà, et tu dis, c'est pas grave, je connais, on te repassera ce que tu connais. Rien qui toute sa vie étudie que du chumash, on le repassera du chumash en haut toute la vie.
Mais c'est bon,
c'est pas mal, c'est bien. Mais quelqu'un qui a diversifié, qui a fait de la Gemara, qui a fait du Zohar, qui a fait du Tanya, qui a fait du Torah, etc. Dans le ciel, on nous repasse le programme. Mais encore une fois, dans le ciel, on ne peut te passer que les organes que tu as générés.
Mais non, je pense à celui qui fait, excuse-moi, celui qui fait tout, qui mange taré, qui fait.
Très bien, ben, il n'a pas.
C'est grave.
On ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas. Il ne l'a pas.
C'est les loisirs, donc.
D'accord.
Mais c'est grave, c'est j'ai vu,
comment il est comme un oiseau.
Alors avec ça, d'accord. Avec ça, on va comprendre les avots. C'est quoi les avots?
Les pères.
C'est que chacun de nous a en lui un peu d'Abraham, un peu d'Yitzhak, un peu de Yaakov. Un peu de bonté, un peu de rigueur et un peu d'harmonie. Parce que si on n'avait pas ça, comme il explique longuement, si on n'avait pas ça, on n'aurait jamais pu tenir dans l'exil. Qu'est-ce qui nous permet de tenir dans l'exil? C'est cette combinaison de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de bonté, de rigueur et d'harmonie. D'accord? C'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est d'essayer de nous aider, même en galoute, à sentir Hachem dans notre cœur. Est-ce qu'on va réussir ou pas? On peut réussir partiellement. On peut réussir à aimer Hachem. Mais il faut savoir que le peu qu'on va réussir, il y aura beaucoup, beaucoup plus lorsqu'on Hachem viendra. Donc ça, c'est le message de ce Mahamar. Pour expliquer comment vous voyez, on a tout démarré d'un mot. Un mot, on a démarré. Quel mot on a démarré? Vaera. Vaera. Au début, on croyait que Vaera, c'était un passé. Je suis apparu. Et il a démontré que c'est un présent perpétuel. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire, pour comprendre l'apport réel des patriarches, il faut attendre Mashiach. Et lorsque Mashiach viendra, là, je vais comprendre parfaitement le Avraham que j'ai en moi, le Yitzhak que j'ai en moi, le Yaakov que j'ai en moi, qui me permettent de tenir en exil, qui me permettent de générer mes membres, et qui me permettent de construire. Maintenant, là, je rentre pas dedans, mais il y a un père, il y a une mère. C'est qui le père? Le père, c'est celui qui donne la goutte. Le père, il donne la goutte. Mais le père, il peut pas faire plus que ça. Le père, il peut pas faire le bébé.
C'est la mère qui génère tout, qui fait.
C'est qui la mère? C'est moi. C'est qui la mère? C'est qui la mère, spirituellement? Le père, on a dit, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est aussi Abraham, Yitzhak et Yaakov. Prends les appels patriarches parce qu'ils nous ont donné cette goutte. La goutte du chesed, la goutte de la rigueur, la goutte de l'harmonie. Ils nous ont donné cette goutte. Mais après, cette goutte n'est pas suffisante. Si tu as une goutte, mais que tu ne l'as pas développée, tu n'as pas de bébé. Ça veut dire que les avot ne pourront pas faire le boulot à ta place. Les avot peuvent te donner la goutte. Peuvent te donner l'idée. Comme l'idée, quelqu'un, je peux donner une superbe idée pour faire un business plan. Le développement, personne ne le fera à ta place.
C'est clair.
Le papa, il peut donner la goutte. Mais s'il n'y a pas de maman à côté qui prend cette goutte et qui la développe, ça ne marche pas. De la même façon, Hachem, il dit, moi, je te donne la goutte. Je t'envoie les patriarches, ils vont donner des gouttes. Abraham, Israël, ils vont tout donner. Ils vont donner le DNA, l'ADN. Ils vont tout donner. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gouttes? Ces gouttes, elles peuvent rester dans un labo. Elles peuvent rester non développées. Elles peuvent être en perdition. Si toi, tu prends ces gouttes et tu les développes, tu fais des organes avec elles, tu fais un bébé, là, lorsque ma chair arrive, on peut parler d'une naissance. C'est pour ça que l'étude de la Torah et les visites en galoute sont particulièrement importants. Parce que c'est là qu'on génère le bébé. Même si on a l'impression que c'est pas grave, de toute façon, la tête est entre le nombril, je ressens rien, je vois pas, je sens pas, j'entends pas. Donc si je sens pas, j'arrête. Je te dis non. Ne fais pas la même erreur que le bébé dans le ventre de sa mère. Enfin, le bébé, il ne fait pas cette erreur.
Oui.
C'est pas parce que l'organe ne fonctionne pas qu'on arrête de le générer. Je le génère parce que je sais qu'il me sera d'utilité. Merci. Lorsque ma chair viendra, les organes que j'ai générés dans ma chair me sont d'utilité. Voilà.
C'est
un chidouche de Morazaken. Avec ça, je vous dis, on a fait que deux colonnes, deux petites colonnes. Après, il continue encore. Hein.
Ah oui,
sur chaque parachat, t'as 15 pages comme
le
ça.
Le prochain,
tout ça, c'est avec
Vaera.
Avec
Vaera.
Hein, ma main dit.
C'est bon, hein.
Je dis le prochain qui me sort la Torah se dépasser, j'ai mis les Hamas, ils avaient 2000 ans, j'ai